Orient Hebdo, Éric Bataillon.
Bonjour. Être athée en monde musulman, c'est un dossier de notre partenaire, le magazine La Croix Hebdo. L'athéisme y est en forte hausse chez les jeunes, ce qui en ferait une menace prioritaire pour les gouvernements. On en parle avec la rédactrice en chef du magazine, Isabelle de Gaulmin. Avant cela, voyons comment le Moyen-Orient a traversé la crise du coronavirus, notamment lors du Ramadan. L'historien Jean-Pierre Filiu a consacré l'un de ses blogs du journal Le Monde à ce sujet. On fait le point avec lui. Bonjour Jean-Pierre Filiu.
Bonjour Éric Bataillon.
Professeur des universités en histoire du Moyen-Orient à Sciences Po Paris. Vous êtes auteur d'un blog hebdomadaire pour le journal Le Monde. Et justement, dans l'un de ces exercices, vous avez tenté de tirer les leçons d'un ramadan sous coronavirus. Jean-Pierre Filiu, comment les 1,8 milliard de musulmans ont-ils pu vivre ce ramadan ?
D'abord, ils l'ont vécu mal, mais ils l'ont aussi vécu de manière étonnamment disciplinée. C'est-à-dire que, à des exceptions majeures, hein, la République islamique d'Iran, la République islamique du Pakistan, les pouvoirs, les autorités religieuses et les fidèles ont accepté de subordonner la mise en œuvre de cette obligation religieuse, qui est le jeûne sacré du mois de Ramadan, aux contraintes du coronavirus, et donc d'en vider une grande partie du caractère festif, social, sociable, qui fait de ce ramadan une des très grandes fêtes de toutes les musulmanes et de tous les musulmans.
Diriez-vous que la préservation des vies humaines a prévalu sur la stricte observance rituelle, et même pour les lieux saints ?
Ah, tout à fait, ça a même été assez spectaculaire. C'est donc une citation coranique, hein, si tu sauves une vie humaine, c'est comme si tu sauvais toute l'humanité, qui s'est imposée à toutes les autres observations religieuses et qui a fait que très tôt, les trois lieux saints de l'islam ont été fermés aux fidèles, hein, dès le mois de mars, aussi bien la grande mosquée de la Mecque avec la Kaaba que celle de Médine, mais aussi la mosquée El-Aqsa, qui, même si elle est en territoire occupé par Israël, est administrée par le royaume hachémite de Jordanie.
Alors vous parliez des exceptions, vous parliez de l'Iran et du Pakistan. Pourquoi ces exceptions ? Quelles sont les raisons qui font que ça s'est moins bien passé dans ces deux pays ?
Ça s'est moins bien passé pour les fidèles, mais ça s'est peut-être mieux passé pour les régimes. Mais c'est toujours cette distinction quand on a un opportunisme au pouvoir qui subordonne les intérêts généraux, les intérêts nationaux à ceux de l'équipe qui est aux commandes, eh bien on a ces distorsions. Alors j'insiste sur le fait qu'au Pakistan, le régime est sunnite, en Iran, le régime est chiite, donc ça n'est pas lié à l'orientation religieuse des uns ou des autres, mais bien au fait que les régimes ont fait passer leur intérêt propre. Alors cet intérêt propre au Pakistan, c'était le fait que le régime a pactisé avec les oulémas les plus conservateurs pour laisser les mosquées ouvertes pendant Ramadan. Il y a le rite des prières nocturnes chaque soir de Ramadan avec récitation du Coran. Et partout ailleurs dans le monde musulman, il avait été suspendu. Au Pakistan, hein, donc pays très densément peuplé, il a été maintenu. C'était tout à fait irresponsable. Et d'ailleurs, on a vu que la diffusion du virus a démarré dans ces circonstances. En Iran, c'est beaucoup plus grave. C'était même avant le Ramadan. C'était un régime qui se prévaut d'une forme d'immunité divine de la part de l'imam caché, donc le 12e imam du chiisme, et qui a donc laissé très longtemps, trop longtemps ouverts les lieux de pèlerinage chiite à Meshed et à Qom. C'est d'ailleurs une des raisons de la diffusion de la pandémie. Et l'Iran est aujourd'hui le pays musulman de très loin le plus touché par le virus, parce que le régime, qui a été soumis à une contestation très dure ces derniers mois, notamment en novembre 2019 avec une véritable explosion sociale, eh bien, il a préféré jouer la carte économique plutôt que la préservation sanitaire pour que, après tout, peut-être plus d'Iraniennes et d'Iraniens meurent, mais qu'au moins on ne manifeste pas contre le gouvernement dans des formes d'émeutes de la faim.
Alors là, on le voit, c'est la prise de position de gouvernement aussi bien au Pakistan qu'en Iran pour des raisons intérieures. Mais qu'en est-il, par exemple, des exactions djihadistes dans la région ? Est-ce qu'elles ont continué pendant la pandémie ?
Non seulement elles ont continué, mais malheureusement, le Ramadan est dévoyé par les organisations djihadistes comme étant le mois privilégié du djihad, donc de la violence terroriste qu'ils exercent. Et on a vu Daesh, hein, le bien mal nommé État islamique, relancer ses opérations en Syrie et en Irak. Donc en Syrie, surtout contre le régime Assad dans le désert de Palmyre, mais aussi contre les milices kurdes dans la vallée de l'Euphrate. Et en Irak, jusqu'à quelques dizaines de kilomètres de Bagdad. Donc c'est une guérilla qui est incapable à ce stade de reprendre le contrôle d'un territoire, mais qui prouve que Daesh continue de représenter une menace, alors même que la coalition mobilisée contre lui par les États-Unis, ben, peu à peu, elle se débande. Hein. En Syrie, elle a abandonné ses alliés kurdes lors de l'offensive turque d'octobre dernier. Et la pandémie a fait que en Irak, les contingents occidentaux ont été réduits du fait des risques de contamination.
Alors vous parliez de l'Irak. Alors qu'en est-il des contestations sociales justement en Irak, mais aussi au Liban et puis en Algérie? Ont-elles été victimes, elles, du coronavirus et que s'est-il passé pendant le Ramadan?
Alors bien sûr, hein, le coronavirus a servi d'argument, parfois légitime, hein, parfois opportuniste, au régime pour interdire les mobilisations de rue. En Irak, elles se sont poursuivies, même pendant Ramadan, sous une forme atténuée, avec des repas de rupture du jeûne collectif dans les places occupées par les opposants à Bagdad. Mais c'est en Algérie que le coronavirus, et ça c'était antérieur au Ramadan, a permis au régime de célébrer la fin du Hirak, donc cette contestation qui a débuté en février 2019 et qui donc, au bout de 57 vendredis et mardis de marche, eh bien, a été suspendue du fait de la pandémie. Et d'ailleurs, ce sont les contestataires eux-mêmes qui ont mis en avant leur sens de la responsabilité, l'intérêt supérieur de la nation pour suspendre ces marches le 18 mars. Et donc, le régime a profité du Ramadan pour intensifier la répression, surtout à l'encontre des journalistes critiques d'une part, et d'autre part des militants qui, pourchassés dans l'espace public, avaient trouvé refuge, si j'ose dire, sur les réseaux sociaux et qui ont pu être condamnés à de très lourdes peines pour cet simple exercice de la liberté d'expression. Au Liban, c'est un peu particulier parce que malgré le côté assez insaisissable du service public au Liban, eh bien, la pandémie a été assez contenue, ce qui a permis une levée du confinement qui était tout à fait ordonnée. Et donc, dès que le confinement a été levé, la contestation a repris, notamment dans la ville de Tripoli, au nord du pays. Et donc, on voit cette espèce de bras de fer où le coronavirus, ce Ramadan si particulier, n'est pas arrivé à éteindre la contestation sociale. D'ailleurs, en Algérie, dès la fin du Ramadan, on a eu, notamment à Khairata, la première ville qui avait manifesté contre Bouteflika il y a plus d'un an, une reprise des manifestations.
Alors, ce n'est pas lié directement au Ramadan, ni à la fin, ni à son contenu, mais plutôt à la pandémie elle-même dans les Émirats et notamment au Koweït, mais pas seulement. Au Qatar, c'est un peu la même chose. Il y a eu ces réactions très violentes en faveur de certains types de populations et notamment les étrangers, me semble-t-il.
Et oui, il faut bien voir que dans l'ensemble de la péninsule arabique, le coronavirus a eu l'effet d'un révélateur. C'est-à-dire que ces pays assoient leur prospérité, non seulement sur leurs ressources faramineuses, mais aussi sur ce travail d'émigrés arabes et non-arabes, qui sont des millions dans la péninsule arabique, mais qui sont largement occultés. On peut ne pas les voir quand on vit là-bas et quand on est un ressortissant koweïtien, saoudien, émirien, qatari. Mais là, avec la pandémie, leur existence devenait visible parce que on savait que les conditions difficiles, pour ne pas dire inhumaines, dans lesquelles certains vivent et habitent, favorisaient justement des clusters, donc des centres de diffusion de la pandémie. On l'a vu à la Mecque, mais on l'a vu aussi donc dans les Émirats de la côte méridionale du Golfe Persique. Et c'est vrai qu'au Koweït, où règne une liberté d'expression réelle, eh bien cette liberté d'expression a favorisé l'expression d'un racisme débridé à l'encontre surtout des Égyptiens qui constituent les gros bataillons de ces travailleurs émigrés. Il faut constater qu'aux Émirats arabes unis, où la liberté d'expression est elle très bridée, eh bien au contraire, l'expression de ce sentiment a été immédiatement réprimée. Donc là aussi, on voit toute une dialectique entre la nature des régimes et la façon dont les populations émigrées sont traitées.
Parlons de votre blog, Jean-Pierre Filieu. Quel est votre objectif avec lui ? Et est-ce une façon pour vous de toucher un public plus large et surtout moins pointu que ne peuvent l'être vos étudiants de Sciences Po ?
Alors d'abord, c'est une grande marque de confiance que m'a fait le journal Le Monde en hébergeant ce blog depuis novembre 2015. Il avait débuté juste après le choc des attentats du Bataclan, des terrasses et du Stade de France. Et effectivement, avec une liberté totale, tous les dimanches matins, je me saisis d'un sujet de l'actualité moyen-orientale au sens large pour essayer de le traiter sous un angle un peu original. Alors, c'est pour moi une expérience formidable. C'est effectivement un public beaucoup plus large que celui de mes étudiants, comme vous l'avez évoqué, mais aussi de mes livres. Et ça me permet en fait d'avoir ce retour du débat public, des interrogations que se posent les lectrices, les lecteurs du Monde par rapport à ce sujet. Bon, ce blog, il l'appelait Ainsi Proche-Orient, parce que je crois que ces questions-là ne sont pas lointaines. J'essaie de toute façon de les rendre le plus proches possible de nos préoccupations quotidiennes ici et maintenant.
Merci Jean-Pierre Filieu, spécialiste de l'histoire du Moyen-Orient à Sciences Po Paris.
Merci Éric Bataillon.
Rendez-vous donc sur votre blog Ainsi Proche-Orient, c'est chaque dimanche sur le site lemonde.fr.
Orient Hebdo sur RFI.
Être athée en monde musulman, c'est le titre d'une enquête très fournie que publie le magazine La Croix Hebdo dans son édition de cette semaine. Être athée en monde musulman pourrait être un oxymore, tant la religion semble faire partie intégrante de la vie quotidienne en terre d'islam, et pourtant, rien n'est moins sûr. Bonjour Isabelle de Golemin.
Bonjour Éric Bataillon.
Rédactrice en chef de La Croix Hebdo. Et pourtant, donc, l'athéisme semble bien présent en terre musulmane. Dans quelle proportion et dans quel type de population précisément ?
Alors, c'est très difficile à savoir parce que, en fait, il n'y a pas de déclaratif. En quelque sorte, tout le monde se dit croyant en terre musulmane. Ceci dit, il commence à y avoir des enquêtes, et notamment la dernière enquête qui nous a fait un petit thé, c'est une enquête menée par votre confrère la BBC en 2018-2019, et qui montrait que 13% des habitants de monde musulman, donc un habitant sur huit quand même, se disait athée, ou en tout cas non-croyant. Et alors, pour savoir qui plus précisément, ce qui est intéressant, c'est que cette même enquête montrait que c'était surtout vrai chez les plus jeunes, les moins de 30 ans, où là on a quasiment 20% de personnes qui se disent non-croyants.
Alors, on y reviendra, mais être athée ou irréligieux, peut-être le mot conviendrait-il mieux. Est-ce que cela implique de se comporter différemment en public et en privé, notamment avec ses amis ?
Oui, alors c'est ce que montre très bien l'enquête, c'est-à-dire que ce sont des jeunes qui sont athées, mais qui du coup, comme le dit l'un d'eux, classent leurs connaissances. C'est-à-dire qu'ils ont des cercles d'amis, d'amitié, et il y a des gens à qui ils le disent, ou dont, avec qui ils peuvent en parler, et puis d'autres, au contraire, où ils ne le disent pas. Ce qui veut dire que quand même, ce sont des gens qui vivent dans une forme de schizophrénie, ou en tout cas de dédoublement un peu permanent. Notamment, les personnes à qui ils le disent le moins, c'est la famille, parce que c'est là que serait le déchirement le plus grand, c'est-à-dire que leurs parents ne comprendraient pas le... Il faut voir que la religion là-bas est tout autant culturelle, familiale, qu'une question de foi. Pour ces jeunes, ça veut dire vraiment se couper de leur famille.
Mais justement, qu'est-ce qui pousse généralement ces jeunes hommes et ces jeunes femmes à quitter la religion ?
Alors, il y a plusieurs choses. Peut-être, on pourrait dire deux grands phénomènes. D'une part, Internet, qui fait que l'information est partout et que ce sont des grands utilisateurs des réseaux sociaux. Donc, ils peuvent voir ce qui se passe ailleurs. Ils peuvent voir qu'il y a des gens qui ne croient pas et ça leur permet de commencer à se poser des questions. Et puis, peut-être, le fait qu'ils ont beaucoup de demandes et qu'ils n'ont pas de réponse à ces demandes. C'est-à-dire que quand ils arrivent à l'âge pré-adulte ou adulte, c'est-à-dire au lycée, dans les grandes classes ou comme étudiants, ils commencent à se dire « mais pourquoi est-ce qu'on dit que Mahomet n'a pas écrit le Coran, mais que c'est un texte dont il a eu l'inspiration ? Pourquoi est-ce qu'on dit ça dans la Bible ? Pourquoi ?» Et par rapport à tous ces « pourquoi », il n'y a pas en face de théologiens ou de sociologues qui peuvent leur dire, bah voilà, il faut pas avoir forcément une approche littéraliste du Coran, il faut relativiser certaines choses, non, le monde n'a pas été créé en 7 jours, etc. Donc voilà, c'est l'absence de réponse rationnelle, finalement, par rapport à des questions qui se posent, que tout le monde se pose aujourd'hui, mais les religions là-bas n'ont pas du tout l'appareil critique qui serait nécessaire pour répondre à ces questions.
Oui, donc rôle des réseaux sociaux, effectivement, qui véhiculent aussi sans doute un certain nombre d'idées, notamment concernant la science, qui peuvent remettre en cause certains principes de base de certaines religions. Mais vous disiez, le Coran et la Bible, ça veut dire que dans cette région, il n'y a pas que l'islam que l'on quitte, il peut y avoir aussi les religions chrétiennes.
Oui, c'est ce qu'on a voulu faire à travers cette enquête, c'est-à-dire que montrer que pour une copte en Égypte, c'était presque aussi difficile, parce que être copte, c'est pas simplement croire en quelque chose, c'est aussi appartenir à une communauté. Et si on n'est plus copte, on n'appartient plus à cette communauté. Et donc, on est rejeté de cette communauté. Voilà, dire qu'on n'est plus copte si on est copte, dire qu'on ne croit plus en Dieu si on est copte, c'est pratiquement tout aussi difficile que si on est musulman.
Alors justement, comment les apostats sont-ils considérés par les croyants dans le pourtour méditerranéen et notamment au sud ?
Alors pour le Coran, hein, c'est une raison de mort, hein, c'est quand même quelque chose de très grave. Alors cette loi coranique n'est pas forcément intégrée dans les lois civiles de ces pays, mais par contre il y a un certain nombre de pays qui punissent de l'apostasie, et puis il y a l'invocation du blasphème. Par exemple en Égypte, on va vous dire que si vous commencez à remettre Dieu en cause, vous êtes blasphémateur. Et là, ça peut aller en prison et c'est très grave. Il y a aujourd'hui un certain nombre de jeunes youtubeurs égyptiens qui sont emprisonnés parce qu'ils ont osé critiquer la religion sur YouTube.
Est-ce qu'il y a quand même des pays où il est moins difficile d'être sans religion, d'être ladini, comme on dit en arabe ?
Oui, il y a des pays qui sont plus ouverts, entre guillemets, notamment le Liban, évidemment. Alors, l'Égypte, je pense que c'est peut-être moins difficile que dans d'autres pays parce que les Égyptiens sont nombreux, que ils ont vécu quand même une période très hachée récemment et que donc il y a sans doute une forme de reconnaissance implicite de cet athéisme. Par contre, il y a des pays où c'est beaucoup plus compliqué, comme par exemple au Maroc.
Et pour les gouvernants, l'athéisme est-il vraiment la menace prioritaire, comme l'affirme votre invité, l'historien de l'islam Dominique Avon ?
Oui, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a en fait une espèce d'alliance entre la politique et la religion, qu'on a connue d'ailleurs en France, c'est pas nouveau. C'est-à-dire que pour la politique, la religion est un formidable instrument qui leur assure le pouvoir, en fait. Donc si ils ont le sentiment que si on remet en cause la religion, on va remettre en cause aussi leur pouvoir politique. Il y a donc à la fois du côté des institutions religieuses, mais aussi à la fois du côté des institutions politiques, personne n'a intérêt à ce que ce système se fende, se brise. Tout le monde a intérêt à ce que ça continue, parce que si on commence à critiquer la religion, on va aussi critiquer la politique qui soutient cette religion. C'est pour ça que c'est très compliqué pour ces opposants de s'exprimer dans la société, parce qu'ils n'ont aucun relais politique possible.
Alors ça rejoint la question des révolutions du printemps 2011, qui aujourd'hui ont bien disparu dans beaucoup de pays, en tout cas les conséquences. Est-ce que ces révolutions expliquent finalement cette poussée d'irréligiosité ?
Vous avez tout à fait raison. Alors, c'est une explication indirecte. Ce qui est clair, si on prend le cas de l'Égypte, par exemple, comme un gros pays, c'est que toutes les évolutions politiques, voire même les chambardements, les révolutions politiques qu'il y a eu ces dernières années, ont mis à mal un certain mythe du dirigeant politique et religieux. Aussi bien Moubarak que Morsi, qui était quand même frère musulman, ont montré qu'ils n'arrivaient pas à tenir, qu'on pouvait remettre en question leur existence, leur pouvoir. Donc, ça a provoqué un appel d'air pour remettre en cause des choses qu'on pensait ne jamais pouvoir remettre en cause. C'est certain que les printemps arabes ont favorisé ces mouvements. Le problème, c'est que comme ce mouvement s'est éteint et est éteint de manière dramatique, il n'y a aucune issue politique ou publique à tous ces mouvements qui donc restent vraiment enfermés et sous le couvercle.
À lire donc dans La Croix Hebdo de ce week-end, cette enquête sur l'athéisme en monde musulman. La Croix Hebdo, dont vous êtes la rédactrice en chef, Isabelle de Golemin, merci.
Et merci Éric Bataillon, à bientôt.
Orient Hebdo, mise en onde Mathias Golchani, une émission de RFI à retrouver sur notre site www.rfi.fr ou en podcast sur notre appli Pure Radio. N'hésitez pas à vous abonner et à nous noter. On se retrouve samedi prochain, même heure. Prenez soin de vous.
Religion du monde.